Bonjour à chacun. Voilà, aujourd'hui on va se poser une question ensemble. On va se poser cette question qui est affichée à l'écran. Comment entrer dans le royaume des cieux ? Comment entrer dans le royaume des cieux ? Peut-être vous êtes un peu surpris par la formulation, mais vous verrez que dans le texte qu'on va lire à l'instant, cette question elle fait vraiment sens. Aujourd'hui, ça a été dit déjà tout à l'heure par Christian, c'est un culte un peu spécial, un culte de présentation d'enfants. Et tout à l'heure, on aura un temps particulier pour les enfants, enfin trois enfants de notre église, on va prier pour eux, on va les remettre à Dieu, et puis l'église va aussi prendre un engagement vis-à-vis de ses enfants. J'expliquerai tout à l'heure un petit peu le sens qu'on veut donner à cette présentation d'enfants, à ces présentations d'enfants. Mais voilà, ce n'est pas un acte magique. Ne vous attendez pas à voir quelque chose de particulièrement impressionnant tout à l'heure. Mais quand même, ça nous interroge. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller dans une église le dimanche matin. Si ce n'est pas le cas, peut-être vous dites, mais c'est un peu surprenant. Pourquoi est-ce que ses parents ont voulu faire ça ? Pourquoi est-ce que ses parents ont voulu présenter leurs enfants aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi est-ce que ça compte pour eux ? En fait, il y a une seule réponse. C'est parce que pour ses parents, pour chacune de ses familles, Dieu est important. Pour chacune de ses familles, Dieu est central. Et la volonté de chacun de ses parents, c'est que Dieu, un jour, devienne important. Que Dieu devienne central dans la vie de leurs enfants. On peut se poser la question, est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important que d'espérer qu'un jour ou l'autre, Dieu devienne important, Dieu devienne central dans la vie de ses enfants ? Alors bon, vous vous dites peut-être, c'est un pasteur qui nous parle, on est dans une église, donc on s'attend à ce qu'il nous réponde à cette question par l'affirmative. Bien sûr que c'est légitime, bien sûr que c'est raisonnable, mais ce matin, j'aimerais vous donner l'occasion de réfléchir à cette question pour vous-même. Écoutez pas seulement ma réponse, mais réfléchissez à cette question. Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est quelque chose d'important ? Est-ce que le fait d'entrer dans le royaume des cieux, et on va voir à l'instant qu'est-ce que ça signifie, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui doit être central ? On va lire une parabole que Jésus a dite. Si vous avez une Bible, vous pouvez chercher, c'est dans Matthieu au chapitre 13. Si vous n'avez pas de Bible, ne vous inquiétez pas, le texte va être affiché à l'écran dans un instant. Simplement, pour ceux qui fréquentent l'église depuis quelque temps, vous avez peut-être remarqué, c'était au mois de juillet, on a commencé d'étudier quelques paraboles de Jésus, et puis voilà, là on continue d'étudier ces paraboles, une à une. Et aujourd'hui, on va lire une parabole toute courte. Qu'est-ce que c'est une parabole déjà ? Une parabole, c'est une petite histoire tirée du quotidien, quelque chose de facile à comprendre, quelque chose que tout le monde peut comprendre sans une grande réflexion. Une petite histoire qui illustre une grande histoire, qui illustre une vérité beaucoup plus profonde. Et c'est ça qu'on va voir. Jésus avait l'art, si je puis dire, de dire des choses très profondes en très peu de mots. Aujourd'hui, on va étudier une parabole hyper courte. Elle fait deux phrases en français, 37 mots en français, un seul verset dans nos Bibles. C'est hyper facile à comprendre. Mais pourtant, on va le voir, c'est tellement profond en enseignement pour nous aujourd'hui. On a lu déjà un extrait de l'évangile de Matthieu tout à l'heure avec Christian. On a vu que pour entrer dans le royaume des cieux, on devait être comme des enfants, avoir l'humilité comme des enfants. Et là, on va voir un autre élément, une autre facette qui pour répondre à cette question de comment entrer dans le royaume des cieux. Je vous annonce déjà la réponse. Tout à l'heure, enfin tout de suite, je vais lire le texte, mais je vous annonce déjà la réponse. Enfin, j'ai essayé de formuler la réponse en une phrase. C'est comme ça, c'est en réalisant qu'il vaut plus que tout, le royaume des cieux donc. Premièrement, en réalisant qu'il vaut plus que tout. Et deuxièmement, en réalisant qu'il mérite qu'on perde tout pour y entrer. en réalisant qu'il vaut plus que tout et qu'il mérite qu'on perde tout pour y entrer. Je vais lire le texte. C'est dans Matthieu 13, verset 44. Et il est aussi affiché ici. Si vous n'avez pas de Bible ou si vous avez une Bible dans une autre version, comme ça vous pouvez suivre le même texte. Voilà ce que Jésus dit. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Je relis le texte une deuxième fois pour qu'on l'ait bien en tête. Hein. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Jusqu'ici, la lecture de cette parabole. Franchement, l'histoire en elle-même n'a besoin d'aucune explication. Je pense que n'importe qui comprend ce qui se passe ici. On comprend bien la petite histoire. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que cette petite histoire illustre ? C'est quoi ? Quelle est la grande histoire derrière la petite histoire ? Jésus n'est pas juste en train de parler de quelqu'un qui, dans l'histoire réelle, a trouvé un trésor dans un champ. Jésus est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus important que ça. Ce n'est pas juste un fait, c'est une vérité universelle dont il est en train de parler. Avant d'étudier ensemble cette parabole, avant de commenter cette parabole, je dois dire que il y a une difficulté avec les paraboles. Dans la manière de comprendre les paraboles, il y a une difficulté. C'est que souvent, c'est très simple de comprendre l'histoire, la petite histoire, mais ça peut être assez compliqué de comprendre la grande histoire. Alors, si demain matin, vous allez dans une librairie chrétienne et que vous achetez des commentaires sur l'évangile de Matthieu, vous pourrez regarder ce que les commentateurs disent de ce passage et vous remarquerez que différents commentateurs peuvent avoir des approches légèrement différentes par rapport à cette parabole et y voir une vérité non pas opposée, mais des nuances par rapport à cette parabole. J'ai choisi une manière de la comprendre, ce qui me semblait le plus naturel, aussi la manière dont la plupart des commentateurs choisissent de comprendre ce passage. Et voilà, mais sachez-le, soyez pas surpris si peut-être vous trouvez d'autres manières de lire cette parabole. La première question qu'on se pose en lisant ce texte, c'est ceci. Le royaume des cieux. C'est quoi ce royaume des cieux ? On n'est peut-être pas trop habitué à cette formulation-là. Hein. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du royaume de Dieu. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de, je sais pas, de la vie éternelle ou du paradis ou je ne sais quoi. Et ça peut être un peu confusant de se dire, mais pourquoi là tout d'un coup on a cette appellation, le royaume des cieux ? Il faut savoir que, et c'était le cas dans le passage que Christian nous a lu tout à l'heure, Matthieu, dans son évangile, tout particulièrement, emploie beaucoup cette expression, le royaume des cieux. Très tôt dans l'évangile de Matthieu, on a l'expression, hein, déjà chez Jean-Baptiste, celui qui était le précurseur de Jésus, celui qui est venu avant lui pour annoncer sa venue, déjà lui, il a annoncé que le royaume des cieux était en train d'arriver. Un peu plus tard, la toute première parole publique de Jésus, la première fois que Jésus enseigne de manière publique dans l'évangile de Matthieu, il dit ceci, « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Donc on ne doit pas être surpris de cette expression, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est dans la pensée de ces personnes du premier siècle ? Qu'est-ce que ça représente, le royaume des cieux ? Eh bien, le royaume des cieux, c'était tout simplement le lieu de la présence de Dieu, le lieu où Dieu règne. Alors évidemment, Dieu est présent partout. Évidemment, Dieu règne sur tout. Mais les cieux, c'est ce lieu plus marqué où Dieu est présent, ce lieu qui est en dehors de notre réalité, où Dieu est présent. Il ne s'agit pas juste du ciel qui est au-dessus de nos têtes, il s'agit de ce lieu où Dieu est, où Dieu règne. Et puis, au fur et à mesure de l'évangile de Matthieu, on apprend que le royaume de Dieu s'approche. Jésus, par son œuvre, est en train de mettre en relation le royaume terrestre et le royaume des cieux. Les choses deviennent de plus en plus claires. Si vous lisez tout l'évangile de Matthieu, on se rend compte qu'en fait, Dieu va revenir, Jésus va revenir. Il va y avoir un grand jugement. Et certains vont pouvoir entrer dans ce royaume des cieux, alors que d'autres ne pourront pas entrer dans ce royaume des cieux. Donc la question, c'est ça, c'est qui ? Qui va entrer dans ce royaume des cieux ? On a vu tout à l'heure, ceux qui sont humbles, comme des enfants. Et puis maintenant, dans cette parabole, on voit une autre vérité, une vérité complémentaire, qui nous permet de mieux comprendre qui pourra entrer dans ce royaume des cieux. Le royaume des cieux vaut plus que tout, et il mérite que nous perdions tout pour y entrer. Il y a deux aspects, deux vérités dans cette petite parabole. Première vérité, il vaut plus que tout. Cet homme, cet anonyme, l'homme de la parabole, il trouve ce trésor dans le champ. Et sa réaction est directe. Il cache le trésor, il vend tout ce qu'il a et il achète le champ. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait que ce trésor valait plus que tout. Alors, il faut faire une petite parenthèse ici, ça peut paraître être une pratique un peu douteuse, On se dit, bon, il est un peu en train d'arnaquer le propriétaire du champ, là. Il ne lui dit rien, il cache le trésor, il va... ça semble un peu frauduleux, c'est un peu de la magouille, de ce qu'il fait. Est-ce que Jésus est en train de cautionner ce genre de pratique commerciale ? Bien sûr que non. Il faut comprendre qu'on est là dans une parabole. Jésus n'est pas en train de mentionner des faits qui se sont passés, il n'est pas en train de valider une pratique commerciale. Si on pense que Jésus est en train de faire ça, en fait, on passe à côté du message central de cette parabole. Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il y a un trésor qui vaut plus que tout. Jésus est en train de nous donner ici une grande vérité. Et si on commence à s'attacher à des vérités périphériques, à des éléments qui sont pas centraux dans cette parabole, en fait, on passe à côté du message central. Jésus est en train d'enseigner une vérité. Et je crois que se poser la question d'une pratique douteuse nous fait aller trop loin par rapport à la compréhension de cette parabole. Ce trésor, il vaut plus que tout. Et on est marqué par la réaction de cet homme. Il ne réfléchit pas. Il ne s'assoit pas un moment pour peser le pour et le contre et se demander est-ce que l'investissement sera rentable ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que ça vaut le coup que je vende tous mes biens ? Non, directement. Il est plein de joie, il vend tout ce qu'il a, il achète le champ parce qu'il savait qu'il avait une valeur énorme, une valeur bien supérieure à ses biens. Mais il y a une deuxième vérité dans cette petite parabole, c'est qu'il mérite qu'on perde tout pour y entrer. Il mérite que nous perdions tout pour y entrer. Quand même, c'est pas rien. Ce gars a vendu tous ses biens. Il a perdu toute sa sécurité. Il réfléchit pas à moitié. Il vend tout et il achète le champ. Je trouve que ça met un contraste énorme entre la totalité d'un côté de la valeur des biens de cet homme et la valeur de ce trésor. On se rend compte à quel point la totalité de ses biens valent infiniment moins que la valeur de ce trésor. Ce trésor vaut plus que tout. Mais cet homme sait que la seule manière par laquelle il pourra l'obtenir, c'est en vendant tous ses biens. Il n'hésite pas à le faire. C'est le moment de prendre un peu de recul. Qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire par là ? On comprend bien les vérités qu'il y a là derrière, mais qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire ? Et là, il faut qu'on prenne un peu de recul par rapport à l'enseignement général de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a enseigné ? Non pas juste dans cette parabole, mais de manière générale. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. La première chose, c'est une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes, dès notre naissance, exclus du royaume des cieux dont Jésus parle ici. Nous en sommes exclus parce que... On sait un jour dans le passé, nos parents, nos arrière-arrière-arrière-grands-parents se sont rebellés contre Dieu. Et nous aussi, on doit l'admettre, on fait le mal, on fait des choses qui déplaisent à Dieu. on commet des fautes, on commet des, ce que la Bible appelle des péchés. Et à cause de ça, à cause de cet état dans lequel nous sommes, on ne peut pas s'approcher de Dieu, parce que Dieu est parfait, parce que Dieu est saint, et on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Mais tout l'enseignement de Jésus est là, c'est dans une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus, Dieu en personne, est venu sur terre. Jésus qui est Dieu en personne est venu sur terre. Il est venu et il est mort sur cette croix. Il est mort à notre place. Il a pris sur lui notre faute, notre rébellion. Et de cette manière, il a effacé notre ardoise. Qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir ça? Qu'est-ce qu'on doit faire pour entrer dans le royaume des cieux? On doit placer notre confiance, notre foi en Jésus-Christ. Mais on ne doit pas placer notre foi en Jésus-Christ comme une petite addition dans nos vies. Ce n'est pas un plus, c'est un changement total, un changement radical. Parce que si je place ma confiance en Jésus, ça signifie que je ne dois pas placer ma confiance en quoi que ce soit d'autre. Ça veut dire que je dois accepter de tout perdre pour tout gagner. C'est exactement le point de cette parabole. Accepter de tout perdre pour tout gagner. J'ai essayé de réfléchir à une petite illustration pour nous aider à comprendre ça, et j'ai inventé ça. C'est une espèce d'autre parabole que j'ai inventée, et j'espère que ça nous aide à bien comprendre ce que Jésus montre ici. C'est l'histoire d'un homme très riche qui est en train de faire une croisière en bateau, et puis il y a un accident, et c'est le beau milieu de la nuit, le bateau commence à sombrer. Il a entendu un choc contre un rocher. Il va voir un peu ce qui se passe et petit à petit, les choses semblent évidentes. Le bateau va sombrer, c'est certain. Du coup, le gars descend vite dans sa cabine, il regarde un petit peu autour de lui et il se dit, mais qu'est-ce que je pourrais emmener, la chose la plus précieuse qui est dans ma cabine que je pourrais emmener? Il voit un petit coffre. Il sait que dans ce petit coffre, il y a quelques objets d'une valeur inestimable. Il prend ça, il va sur le pont et puis quelques minutes plus tard, le bateau sombre. Le gars se retrouve là, au milieu des débris, à essayer tant bien que mal de nager avec son bras libre et puis son coffre sous le bras, et puis il se débat comme ça pendant quelques heures jusqu'au moment où le soleil se lève. Et quand le soleil se lève, le gars peut voir un peu plus loin et il se rend compte que le rivage est là. Le rivage est peut-être à 1 kilomètre de lui, mais lui, il a plus de force. À partir de là, il sait qu'il a 2 options. Soit il lâche son coffre et il emploie ses dernières forces à essayer tant bien que mal de nager jusqu'à ce rivage. Soit il se cramponne à son trésor, il le garde, à l'issue de quoi il y aura une mort certaine. Vous comprenez l'image? Il faut que cet homme accepte de tout perdre, tous ses biens, pour pouvoir tout gagner. À quoi ça lui servirait? Ça semble aberrant. À quoi ça lui servirait de garder son trésor s'il perd la vie? Il faut qu'il accepte de tout perdre pour pouvoir tout gagner, c'est-à-dire pour pouvoir sauver sa vie. On a un trésor inestimable, un trésor dont on ne peut juste pas du tout mesurer la valeur. Ce trésor, c'est une porte d'entrée pour le royaume des cieux. On a l'occasion d'entrer dans la présence de Dieu et d'y entrer non pas juste pour quelques jours, mais d'y entrer pour l'éternité. Le royaume des cieux est à portée de main. Mais pour y entrer, il faut qu'on accepte de tout perdre. Alors, il faut que j'explique un petit peu là. Il n'est pas question de dire qu'il faut qu'on vende nos biens ou quelque chose comme ça, qu'il faut qu'on vive d'une manière misérable. En fait, le fait de tout donner ne va pas conditionner notre entrée dans le royaume des cieux. Jésus a tout accompli, c'est fait une fois pour toutes. Mais seulement, on ne peut pas se confier à la fois en Jésus et à la fois en autre chose. Il faut qu'on accepte de tout abandonner, comme cet homme qui nage avec son coffre et qui est face à ce choix. Il faut qu'on accepte de tout abandonner, toutes nos sécurités. Il faut qu'on accepte que ce n'est pas sur mes performances que je peux compter. Ce n'est pas sur mon mérite. Ce n'est pas non plus sur mes biens, aussi importants soient-ils. Ce n'est pas sur mon assurance vie ou que sais-je. Je ne peux pas non plus compter sur l'État. Je ne peux même pas compter sur ma famille. je dois compter sur Jésus seul. Tout lui appartient. Il est le seul qui puisse me faire entrer dans ce royaume des cieux. Il est le seul qui a payé le prix pour ça. Il est le seul pour lequel, si je lui fais confiance, je vais pouvoir entrer dans ce royaume des cieux. Tout lui appartient. C'est un investissement. C'est un investissement infini. C'est un investissement plus qu'on ne peut pas imaginer. Mais c'est l'investissement le plus rentable qu'on puisse imaginer. C'est le choix le plus judicieux, comme cet homme qui attend avec son coffre sous le bras. On a envie de lui dire, bah, bien sûr, nage, laisse tomber ce coffre. Et de la même façon, nous aussi, abandonnons tout et confions-nous en Jésus. Aujourd'hui, c'est le culte de présentation de l'enfant. Et c'est ça que les parents espèrent pour leurs enfants. Moi aussi, j'ai deux filles. Et c'est pour ça que je prie pour elles tous les jours. On prie qu'un jour, nos enfants comprennent cette vérité-là. Qu'ils comprennent qu'ils ont un trésor inestimable à portée de main. Mais qu'il faut qu'ils acceptent de tout perdre pour pouvoir le prendre, pour pouvoir l'obtenir. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment est-ce qu'on répond à ce texte ? J'ai réfléchi à quelques questions que j'aimerais vous poser maintenant. Quelques questions personnelles. Je vais me les poser à moi-même et je les pose à vous pour faire un petit peu le point, pour qu'on puisse savoir, mais où est-ce que j'en suis ? Où est-ce qu'on en est par rapport à ça, par rapport à ce trésor, par rapport à ce royaume des cieux ? Alors, je vous propose de essayer de focaliser vos pensées sur les questions que je vais poser. Je vais poser, il y en a 6. Je vais poser une question, puis je vais laisser juste quelques secondes pour que chacun de nous puissions réfléchir pour nous-mêmes à une réponse à donner à chacune de ces questions. Et puis ensuite, je vais prier. Première question. Est-ce que je comprends qu'il y a un trésor inestimable à portée de main ? Deuxième question. Est-ce que je comprends que ce trésor est accessible simplement en plaçant ma confiance en Jésus? Troisième question. Est-ce que je suis prêt à tout perdre pour tout gagner? Quatrième question. Y a-t-il des choses qui m'empêchent de tout perdre? Cinquième question. Pourquoi? Pourquoi ces choses me bloquent-elles, m'empêchent-elles de tout perdre pour placer ma confiance en Jésus? Finalement, dernière question. Quelles sont les choses que je devrais abandonner ? Peut-être ma réputation, mes biens, mes performances, mes relations. Quelles sont les choses que je devrais abandonner pour mettre toute ma confiance en Jésus ? Je vais prier. Seigneur, on veut te rendre gloire, on veut te remercier parce que tu as placé ce trésor devant nous. Il est là, il est à portée de main. On n'a rien à faire. Il est accessible, on a juste à le prendre. On a juste à placer notre confiance en Jésus-Christ pour rentrer dans ce royaume des cieux, pour avoir cette assurance de la vie éternelle, pour être pardonné de nos fautes, pour pouvoir avoir une relation réelle, rétablie avec toi, pour entrer dans ta famille. Seigneur, transforme mon cœur, transforme nos cœurs. Aide-nous à ne pas nous appuyer sur autre chose, mais à placer notre confiance en toi seul. Aide-nous à tout perdre pour tout gagner, pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.